Nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous ne serions pas là, nous n'existerions même pas, le monde n'existerait même pas si tu te retires. C'est ta première grâce que tu accordes à ce monde, à ces êtres humains, qu'ils croient en toi ou pas. Tu leur accordes cette grâce parce que si tu te retires, personne n'existerait. Mais je te remercie déjà juste pour cela. Merci pour cette matinée. Merci pour ta parole. Et encore une fois, dans l'humilité, que nous venons à toi pour que tu puisses nous parler, à commencer par ton serviteur. Que je puisse apprendre par mes erreurs. Et que je puisse avancer, non seulement pas de moi, avancer non seulement de moi-même, mais que je puisse te laisser entièrement prendre toute la place. C'est ma prière pour l'Église. Amen. Amen. Dans la continuité du dimanche dernier, où il était question du pardon, et nous avons continué notre discussion mercredi, c'est une discussion riche, et nous avons tous appris, non seulement intellectuellement, mais nous avons prié le Seigneur pour que cette discussion soit pratique dans notre vie. Le point commun, c'était que même le pardon, quand on nous l'accordons à notre frère qui nous a offensés ou à notre ennemi, ne vient que de Dieu. Le vrai pardon vient de Dieu, pas de nous-mêmes, parce que nous sommes incapables de pardonner. Et pour rendre cette chose possible, le Seigneur a accompli une œuvre que nous avons célébrée à travers la Sainte Cène, la mort et la résurrection. Toute prédication, toute vie, tout échange revient à un point commun, la croix du Seigneur. Tout ce qui est à côté de la croix, c'est une perte de temps. Non seulement le Seigneur, notre Dieu n'est pas content, mais en fait il ignore, il ne sait même pas que ça existe. Il ne reconnaît que ce qui se traverse la croix. Voilà, le message de la croix, que le message de la croix, rien que le message de la croix, et si vous en avez marre, mais il y aura toujours le message de la croix. Un message que beaucoup d'hommes de Dieu du 19e, 20e et de nos jours rappellent. Ils le rappellent à nos églises aujourd'hui pour dire où est la croix? Jusqu'au point que certains hommes prennent le risque de dire, ils mesurent leurs mots, tout homme de Dieu qui met la croix à côté et prêche dans l'église, c'est un ennemi de Dieu, c'est un ange de Satan. Ça va très loin. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Un message qui ne vient pas de moi, donc il ne peut être que meilleur. Donc c'est un message qui vient d'un homme de Dieu que vous connaissez. Peut-être je vais vous faire connaître. Et c'est quelqu'un qui ne vient pas du 19e, du 20e, c'est de nos jours. Vous voyez comme quoi les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ce n'est pas seulement il y a des siècles, mais aujourd'hui aussi. Un certain David Wilkerson. Cet homme de Dieu américain, pasteur, qui est décédé en 2011, qui est né en 1931, il est décédé donc à l'âge de 79 ans, et qui a œuvré dans le milieu défavorisé des États-Unis, et qui a même travaillé dans le milieu du Bronx, dans le milieu de cette jeunesse qui souffrait de la drogue, de la prostitution, il y avait même des gangs, et qui est même parti carrément dans ces quartiers-là pour vivre avec eux, pour annoncer l'évangile au risque de sa vie, et au point d'accepter d'être rejeté par ses propres églises qui le soutenaient. Ils voulaient le soutenir dans des œuvres, on est sûr que ça va marcher. Mais quand ils ont appris le risque avec ce qu'il encourait, ils l'ont abandonné, jusqu'au point où il écrivait lui-même, il dormait dans sa voiture. Mais il a continué. D'ailleurs, si vous voulez connaître son œuvre, il y a certains qui ont entendu d'un film « La croix et le poignard ». Peut-être vous avez entendu parler, mais c'est tout simplement son témoignage, ce qu'il a fait dans le milieu du Bronx quand il a annoncé l'évangile. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient délivrées de la drogue, d'autres qui étaient des gangs, sont libérés, sont revenus à Jésus-Christ. Dont un qui s'appelle Nicky Cruz, que j'ai eu la chance d'écouter à Belfort au début des années 90 qui donnait ce témoignage et qui était destiné à la prison à vie, la drogue, les assassinats, et qui est revenu au Seigneur à travers cet homme, David Wilkerson. Vous voyez, la vie de cet homme nous parle avant même que je vous lise ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. David Wilkerson remet en question les États-Unis d'Amérique de nos jours. 2011, c'est de nos jours. On est au 21e siècle. Et ce qui se vit aux États-Unis, on va dire que c'est les États-Unis, mais pas du tout. Nous le vivons ici. Il suffit juste d'enlever Amérique, États-Unis, mettre France, et vous allez voir, c'est exactement ce que nous vivons. Il parle de l'idolâtrie. On ne parle pas de l'idolâtrie de l'Ancien Testament, parce qu'on est tous d'accord aujourd'hui de dire, vous voyez, c'est quand on lit l'Ancien Testament, c'est ce peuple juif qui a osé fabriquer un veau en or. Et il l'a mis, commencé à le prier. On est tous d'accord de dénoncer ça. Parce que ce peuple juif, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait voir Dieu d'une manière tangible. Ils en ont marre de croire sans voir. Oui, la science d'aujourd'hui, voir sans croire. Il faut croire. Ils voulaient voir Dieu devant eux, jusqu'au point de façonner un Dieu et commencer à le prier. Et pour dire, voilà maintenant Dieu. Nous ne voulons pas ce Dieu qui nous parle à travers la Bible. Mais c'est quoi ça? On est au 21e siècle. La science, voyons. Il faut que je touche pour croire. Dans l'Ancien Testament, on parle aussi que même on fabriquait des statues en bois. On les mettait dans les familles, on les priait. Mais cette idolâtrie de l'Ancien Testament, elle existe aujourd'hui, pas de la même manière. Je ne parle pas des cultes mariales, je ne veux pas, il y en a d'autres, plus subtils encore, que nous vivons dans nos jours. Quand on met l'homme au centre dans l'Église, ce n'est pas d'idolâtrie. Oh, certes, on n'a pas une statue là, mais quand on s'adore soi-même, quand on dit que tout doit passer par moi, c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur le rejette. Nous dénonçons l'idolâtrie de l'Ancien Testament. Dieu a dénoncé cette idolâtrie, mais dénonce aussi cette nouvelle idolâtrie moderne, très subtile. Elle passe partout. L'Église l'accepte. Cette idolâtrie, elle dit tout, sauf la croix. Tout, sauf la croix. Ma mère me disait, mon fils, on a vu le changement en toi, mais tu peux changer en restant musulman. Tout, sauf la croix. C'est l'épanouissement de soi, dans des structures humaines, sans la croix, en faisant appel à la culture de l'image, du paraître, du chiffre, de la communication, de la pub. Il faut qu'on sache que j'existe. Il faut que je me fasse connaître. Christ ou me faire connaître. C'est la stratégie qui met l'homme au centre et non Dieu. Au meilleur des cas, on va dire, c'est la culture du compromis. Un peu de Dieu et un peu de moi. Qui se transforme des fois. Beaucoup de moi et un peu de Dieu. Et si on ne fait pas attention, plus de Dieu, tout de moi. C'est le monde qui intègre l'Église avec une minimisation de l'œuvre de la croix et de la dénonciation du péché. On ne veut même parler de confession. On veut même parler de repentance. Non, c'est des mots démodés maintenant. Vivons avec notre monde, attirant du monde. Il faut quand même qu'on se fasse connaître. Il y a de la concurrence spirituelle, non? Il y a tellement de dénominations. Si on les laisse faire, ils vont prendre nos parts de marché. Alors, la concurrence, on prendra le maximum. Plus de monde, plus d'argent, plus de... Où est-ce qu'il est Christ dans tout ça? Et je m'arrête là pour laisser la place à David Wilkerson pour nous parler de cette idolâtrie au point de mettre même les hommes devant. On va à l'église parce qu'il y a tel homme, tel évangéliste. Dans une église, il y a même tout ce que vous voulez. Il y a même des églises, il y a des saunas. Et oui, ça existe. Il y a des salles de musculation. Ah oui, l'épanouissement de soi. Je vais même plus loin, c'est le langage qu'on utilise en marketing, même à l'IUT quand je l'enseigne. La fidélisation. Bah oui, on devient un marché avec une clientèle qu'il faut fidéliser. Julie. Une nouvelle idolâtrie est en train d'emporter l'Amérique en ce moment. Non, de nos jours, nous ne voyons plus de personnes. Juste avant de lire, j'avais pris mon portable avec moi. Vous voyez que j'avais pas mes notes, j'ai pas mis mes notes pour suivre dans la logique. Et hier, avant-hier, j'étais en train de regarder mon histoire à travers les églises que j'ai rencontrées depuis le début des années 90 à Belfort. Et je tapais les églises, est-ce qu'elles existaient encore ou pas. Et en même temps, j'allais regarder les confessions et tout cela. Et j'étais touché, je te l'ai lu, Viviane, hier, et je dis, qu'est-ce que tu en penses? Et regardez, c'est ce que je vais lire, vous allez dire, qu'est-ce qui est au centre? Est-ce que c'est l'homme ou c'est Dieu? Voilà, sur un site, je ne vous cite pas lequel d'église, on parle de l'église. Et dans la rubrique « m'impliquer », c'est-à-dire le chrétien s'implique dans l'église. Et je lis ceci. Il n'y a rien de... Vous savez, tout est bien, rien de mal. Nous aimons donner l'opportunité à chaque personne d'utiliser sa créativité, son savoir-faire, ses dons, talents, ses ressources personnelles et son temps pour construire l'église et avancer ensemble. Nous croyons que nous sommes sur cette terre pour servir Jésus et notre prochain. Nous croyons que dans l'église locale, chacun peut trouver sa place pour s'épanouir, grandir et se développer, alors que nous sommes ensemble en action pour faire connaître Jésus autour de nous. C'est quoi le centre? Mais c'est moi, c'est l'homme. Vous voyez? La subtilité, on ramène tout à l'homme, à l'épanouissement de l'homme, à le bien-être. Vous avez des dons, venez. Vous avez dit, venez, mettez ça au service de Dieu. L'homme devient le centre, tout autour du centre, autour de l'homme. Alors que c'est Christ qui doit être au centre, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Une nouvelle idolâtrie est en train d'emporter l'Amérique en ce moment. Non, de nos jours, nous ne voyons plus de personnes s'agenouiller littéralement devant des images sculptées. Cette idolâtrie moderne, au lieu de cela, séduit des multitudes par sa subtilité et son raffinement. Néanmoins, cela met plus Dieu en colère qu'aucune autre idolâtrie dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous avertit que des ministres, c'est-à-dire des hommes de Dieu, des prédicateurs, qui apparaîtront comme des anges de lumière, mais qui sont concrètement des ministres de Satan, viendront dans les derniers jours. Ces hommes seront passionnés, capables de s'exprimer clairement, agréables et pleins de ressources, mais ils seront manipulés par un esprit qui ne vient pas de Dieu. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisé en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Dieu les condamne déjà par avance. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 15. Paul nous avertit que ces ministres démoniaques viendront. Si quelqu'un vient vous prêcher, un verset de la Bible, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Pensez à ce que Paul est en train de dire ici. Dans les derniers jours, des prédicateurs viendront comme étant des hommes d'intégrité et de justice, mais qui sont en fait des ministres sous l'influence de Satan lui-même. Ils seront entièrement d'un autre esprit, introduisant un autre Christ, un autre esprit, un autre évangile. Je crois aujourd'hui de multitudes de chrétiens sont dans une idolâtrie sans le savoir, ayant été séduits par des anges de lumière. Paul a vu cela commencer à apparaître à son époque déjà. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1, versets 6 à 8. Cet autre évangile que Paul mentionne est le message du salut sans la croix. C'est la grande idolâtrie de nos jours. Il y a une foule de prédicateurs qui ont littéralement mis de côté le message de la croix de Jésus-Christ. Soyez avertis. Peu importe ce que vous dit une personne à propos d'un grand réveil ou d'une action du Saint-Esprit, ayant lieu, peu importe combien de multitudes sont entraînées ou à quel point leur louange est forte, le succès visible d'un ministère particulier n'a pas d'importance. Si la croix de Jésus-Christ n'est pas la porte par laquelle les gens viennent, vous pouvez être assuré que ce n'est pas une œuvre de Dieu. La croix avec ses exigences et son espoir est le véritable cœur de l'évangile. Et quel que soit le culte, quelle que soit l'association, tout ce qui se nomme église n'est qu'une idolâtrie éhontée si la chose n'a pas la croix au centre. Une telle adoration est entièrement d'un autre esprit et Dieu n'aura rien à faire de cela. Sans la croix, tout ce qui reste est plaisanterie. Un évangile perverti, quelque chose venant des profondeurs de l'enfer. C'est une idolâtrie plus insultante envers le Seigneur que l'idolâtrie d'Israël avec le veau d'or. Néanmoins, dans la plupart des églises où cet autre évangile est prêché, les bancs sont remplis. Toutes les paroles sont chantées et prononcées. Les termes théologiques tels que sainteté, Saint-Esprit et la croix sont mentionnés. Tout paraît bon et semble juste. Mais la réalité de la croix n'est pas présentée. La crise de la croix, les orientations amenant à la confrontation avec le péché sont complètement évitées. Et si un serment sur la croix n'inclut pas la confrontation vis-à-vis du péché, si cela ne vous emmène pas au moment décisif de la croix, ce n'est pas la véritable prédication de la croix. Si j'allais prêcher, David Wilkerson qui dit ça, toujours, si j'allais prêcher sur les exigences de la croix dans beaucoup d'églises d'aujourd'hui, avec sa mort à toutes les convoitises, à tous les plaisirs du monde, la foule s'enfuirait exactement comme elle l'a fait quand Jésus lui a dit que le sacrifice exigé était de le suivre. Je devrais dire aux multitudes de chrétiens assises confortablement, « Dieu demande que vous fassiez face à vos péchés, que vous vous agenouillez à la croix, que vous vous occupiez de votre méchanceté. » Au lieu de cela, beaucoup de chrétiens déversent leurs énergies dans des réunions intelligentes, pleines d'art de mise en scène, d'illustrations dramatiques, de sermons sur la manière de s'occuper des problèmes de la vie. En ce moment, on est en train de voir une génération entièrement nouvelle de ministres, prédicateurs, jeunes, élégants, intelligents, assidus, d'hommes compétents qui construisent des normes complexes, offrant tout aux gens. Je crois que Dieu ne prête même pas attention à un grand nombre de ces frêles tentatives d'attirer des âmes avec des attraits modernes. Il semble avoir beaucoup de patience avec de tels efforts bien intentionnés, charnels, pour promouvoir l'évangile. Mais les ministres de ces églises auront des ennuis s'ils refusent d'avertir les gens d'abandonner leurs péchés. Jérémie, dans ses lamentations, disait, en parlant de certains prophètes de Jérusalem, Jérémie de certains prophètes de Jérusalem, « Il fortifie les mains des méchants afin que qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. » Et ça, il s'adresse à quelques soi-disant prophètes juifs de Jérusalem. Et plus loin, nous lisons, « Dieu les avertit, il leur dit, « S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et je les ferai revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. » Je dis de tels ministres, à de tels ministres d'aujourd'hui, ramenez la croix où le sang des gens sera sur vos mains. Quelle accusation. La seule chose que Dieu ne supportera jamais est l'abandon de la prédication de la croix. Jésus dit, Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dans Jean chapitre 12, verset 32. Cette élévation de la terre de Jésus-Christ cette élévation de la terre que Jésus-Christ mentionne correspond à sa crucifixion. Il a été élevé sur la croix devant le monde entier. C'est une image de son grand sacrifice pour nos péchés. Dieu s'est abaissé en portant son regard sur un monde rempli de gens malades, liés et emprisonnés par le péché, sur des maisons dévorées par la crainte et le désespoir, assaillies de doutes, sans paix, sans espoir et sans repos, tâtonnant dans les ténèbres et la confusion. Et il a envoyé son propre Fils. Ainsi, Jésus est venu sur la terre, portant sur lui la faiblesse physique de la chair humaine, et a proclamé à tous ceux qui voulaient écouter, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. C'est l'invitation de la croix. C'est un appel adressé à chaque âme malade dans ses péchés. Jésus a lancé un appel à tous ceux qui étaient lassés du mensonge, de la tricherie, de l'adultère, de la dépression. Il disait, « Je sais que vous êtes fatigués de traîner partout vos chaînes, fatigués des nuits sans sommeil. Oui, le péché est un chef de corvée dur. Venez à moi maintenant avec tous vos lourds fardeaux. Il n'y a pas d'autre chemin que ma croix. » Jésus est mort sur la croix, non seulement pour pardonner les péchés, mais pour briser sa puissance écrasante sur nous. Le péché fatigue la chair. Il nous rend faible et malade. Il emporte petit à petit ce qui est bon, doux et précieux. Il endurcit le cœur, anéantit la paix, amène la culpabilité, l'ennui et la honte. Le péché détruit les pensées de l'esprit, affaiblissant et enténébrant l'âme. Le péché emmène la crainte. Le péché mène au scandale. Le péché disperse les familles. Le péché endurcit les enfants. Le péché mène à la mort. Pire encore, le péché coupe toute communion avec Dieu. Bien-aimés, l'Église de Jésus-Christ n'est pas un super club, ni un complexe de divertissement. C'est un hôpital pour âmes malades du péché. Quand les églises ne sont pas faites pour confronter les gens avec la croix, elles constituent un blasphème. S'il n'y a pas de confrontation avec la croix, si ces exigences ne sont pas mentionnées, si ces points critiques ne sont jamais prêchés, alors ce n'est pas la prédication de la croix. Vous voyez, la croix est essentiellement une confrontation avec le style de vie de péché de l'homme. C'est pourquoi c'est une offense à toute personne qui a fait la paix avec ses péchés. Ainsi, une telle personne dit, « Jésus a tout payé. Maintenant, j'ai la paix. Cependant, je marche dans l'entêtement de mon cœur. Je peux me réjouir, non ?» C'est une fausse paix. Une paix maudite. Elle se trompe en croyant que son péché est couvert par le sang, même si elle refuse de l'abandonner. J'ai failli pleurer en entendant récemment les paroles d'un ministre bien connu à la télévision. Il disait « Ne soyez pas trop ennuyés par vos péchés. La Bible ne parle pas beaucoup du péché de toute façon. » Quand Jésus dit « Je suis le chemin et je suis la porte », il parle de la croix. Il dit « Vous ne pouvez pas être sauvés, vous ne pouvez pas aller au ciel à moins que vous n'entriez par le chemin de la croix. » en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Jean, chapitre 10, verset 1. Le voleur et le brigand vous diront, la repentance n'est pas nécessaire, crois simplement. Le chagrin divin n'est pas important, aime ton voisin, ne te tourmente pas à propos de tes péchés, Dieu t'aime tel que tu es. Quel mensonge. Une récente émission à la radio disait qu'une église à Los Angeles vient juste de nommer deux homosexuels comme pasteurs. Les pasteurs disaient Quiconque vient ici entre dans une merveilleuse communauté d'amour. Non, c'est un piège sentimental. Un piège sentimental tient le langage suivant. Aussi longtemps que vous aimez, vous pouvez vous livrer à tout ce qui vous fait plaisir. Homosexualité, drogue, alcool, adultère. Aimez seulement. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Il a dit aussi, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Luc, chapitre 14, verset 27. Cela n'a pas d'importance à quel point ou avec quelle insistance votre théologie vous dit d'aimer. Jésus a dit qu'à moins que vous ne renonciez à vous-même et n'entriez par le chemin de la croix, vous ne pouvez être ses disciples. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire par la confrontation de la croix. Considérez un homme qui en a assez de son habitude pécheresse et qui cependant tombe toujours plus profondément sous son contrôle. Il a promis lui-même des centaines de fois qu'il ne le ferait jamais de nouveau. Et pendant un moment, il a réussi à émerger de la tentation et se réjouit d'une mesure de liberté. Mais quelque temps après, cela revient avec une plus grande force. Dorénavant, cet homme dissimule son péché, ment à son sujet, triche à cause de ce péché, et ceci l'a conduit à un profond chagrin. Il ne s'en réjouit pas, mais il ne peut abandonner son péché. Il continue simplement d'y revenir, mais sans le montrer. L'homme sait qu'il devra se tenir devant le trône du jugement un jour, et il endure la vie craignant d'être découvert et l'objet d'un scandale. Son péché l'a vidé, enchaîné, trempé, et l'a fait tomber dans une lassitude dans laquelle il peut difficilement exister. Il est au bout du rouleau. Dans cet état triste, fatigant, épuisant, le Saint-Esprit lui emmène cette parole. Il y a une sortie pour toi. Il y a un endroit de victoire, de paix, de joie, de nouveauté de vie. Accepte l'appel de Christ à courir vers lui et à trouver le repos. Va à la croix de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand vous vous agenouillez à la croix, vous n'entendez pas une parole facile et douce en premier. Même si la croix est la seule porte vers la vie, vous allez entendre parler de la mort de chaque péché. À la croix, vous affrontez la crise de votre vie. Et c'est ce qui est manquant dans tellement d'églises. La prédication de la croix amène à une crise par rapport au péché, à la volonté. Elle réprimande avec amour, mais en affirmant fermement les conséquences qui se produisent si vous continuez dans votre péché. Renoncez à vous-même, embrassez la mort de la croix. Laissez-moi vous parler de la signification du renoncement et de la vraie repentance. La repentance signifie beaucoup plus que dire « Seigneur, j'ai tort ». Cela signifie aussi dire « Seigneur, tu es juste ». Se repentir, c'est faire face aux conséquences de la continuation dans le péché. Cela signifie faire face une fois pour toutes à la vérité sur votre péché. Il doit prendre fin maintenant. C'est un moment critique de vérité. Un endroit d'aveu où vous admettez « Je ne peux pas continuer dans mon péché et avoir le Saint-Esprit en moi. Je suis en train de tout perdre. Seigneur, tu as raison à propos du péché qui produit la mort en moi. Je vois que si je continue dans le péché, cela va me détruire, moi et ma famille. Je sais que je suis dans l'erreur. Oh Dieu, je rejette toutes mes excuses pour mon péché. » Exprimez simplement, la repentance est une confrontation avec votre péché. La bataille est livrée avant que vous n'ayez la croix. Cela se met en place pendant que le Saint-Esprit s'occupe de vous. Il en est de même du renoncement. Le renoncement est une confrontation qui déclare la chose suivante. Le péché prend fin aujourd'hui, maintenant, sur ce point, contrairement à ce que beaucoup de prédicateurs du réconfort disent. Le reniement de soi n'est pas un quelconque mal de tête que vous devez supporter ou une quelconque infirmité dans votre chair. Quand Paul dit « je meurs tous les jours », il veut simplement dire « j'ai conclu que je dois nier que je peux continuer dans le péché et avoir encore la faveur de Christ ». Je n'ai pas de dérogation spéciale de Dieu pour que je fais, parce que je fais du bon travail et que je suis donc autorisé à garder un péché favori. Non, je suis en plein accord avec la parole de Dieu et je renie tous les droits que j'ai de continuer dans le péché. La glorieuse vérité de l'évangile est que si nous mourons avec Jésus, alors nous héritons la gloire de la résurrection, de la nouveauté de vie. Sa croix est notre croix. Sa mort est notre mort, et sa résurrection est notre résurrection à travers notre identification et notre union avec lui. C'est la véritable croix que nous devons porter. Pourtant, c'est là la croix que beaucoup de soi-disant ministres de l'Évangile ont démolie. La véritable croix n'est pas seulement faite de jolis mots décrivant la souffrance et l'écoulement du sang de notre Sauveur au calvaire. Non, la véritable signification de la croix, c'est que Jésus a saigné et est mort pour amener nos âmes malades du péché vers une liberté glorieuse afin de briser toute chaîne du péché qui nous lie. Je ne voudrais pas prêcher à une foule de gens qui n'ont jamais été confrontés à leur péché et qui ont essayé d'hériter le royaume d'une quelconque autre façon. C'est la condition d'une multitude de soi-disant chrétiens d'aujourd'hui, parle des États-Unis. Le péché ne l'aurait jamais prêché comme étant extrêmement honteux. C'est simplement un mot n'ayant aucune puissance et aucune conviction derrière. Jésus lui-même est la parole de Dieu. Et quand une personne se repent, elle se met en accord avec les paroles de Jésus concernant le péché. Ainsi, quand la Bible dit dans Proverbe 28, 13, ainsi comme la Bible le dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. Laissez-moi revenir à l'homme malade de ses péchés tout à l'heure, il n'arrive pas à s'en délivrer. L'homme malade qui n'arrive pas à se délivrer, de se libérer de ses péchés de tout à l'heure, que je vous ai décrit tout à l'heure. Cet homme maintenant, tant brisé, est blessé au pied de la croix. Il est sans péché, se mettant en accord avec la parole qu'il ne peut continuer un autre jour dans son péché. Mais il se sent impuissant. Et il craint de retomber dans ses habitudes à n'importe quel moment. Cependant, Jésus, celui qui a porté nos péchés, s'agenouille à côté de lui et lui dit de regarder vers la croix vide. Jésus lui dit, « Ami, tu es d'accord avec ma parole au sujet du besoin de confesser et d'abandonner tes péchés? Maintenant, tu dois être en accord avec ma parole au sujet de ma croix qui est devenue ta croix. Oui, cela signifie que ma mort est ta mort. Mais cela veut dire aussi que ma résurrection devient ta résurrection. Ma victoire sur la domination du péché devient ta victoire sur le péché. Comme cet homme, nous aussi. Nous sommes à la croix, malades, à cause de nos péchés, de nos fautes, fatigués de notre fardeau. Nous avons été confrontés à notre péché et nous savons que nous ne pouvons pas continuer à nous y adonner. Et maintenant, nous lisons en Romains 6 que nous sommes déjà morts avec lui. Et parce que nous sommes déjà morts avec lui, nous sommes aussi déjà ressuscités, victorieux. Et du fait d'être enseveli ensemble avec lui dans la conformité avec sa mort. Galates 2:20, il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et un peu plus loin, ceux qui sont attachés à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous poussons un cri. C'est ce que je veux. Je veux mourir au péché, crucifier tous mes désirs charnels. Mais Seigneur, comment puis-je le faire? Comment puis-je obtenir la victoire de Jésus dans ma vie? Qu'est-ce qui me délivrera de ce tourbillon du péché et de la confession? Si vous êtes comme moi, votre première envie est probablement de serrer les dents et d'essayer de vous délivrer vous-même. Quand j'étais un jeune ministre en Pennsylvanie, je lisais la vie d'hommes de Dieu qui avaient mené des styles de vie très simples. Et cela semblait être la réponse pour moi. À ce moment-là, je connaissais un ministre qui était un vrai héros pour moi, un homme qui parlait avec une grande autorité. Il menait une vie de simplicité totale, vivant dans une petite chambre et possédant une seule tenue. C'est ce que je pensais que le renoncement signifiait. Un style de vie simple, je pensais, « Seigneur, c'est ce que je veux, je pourrais être une forteresse pour toi. Si seulement je vidais mes placards et jetais tout sauf un vêtement ou deux, je pourrais vendre ma voiture en avoir une pas chère. Je pourrais acheter une vieille maison pas jolie. Je pourrais abandonner le steak et manger de la viande hachée à la place. Je pourrais servir d'exemple grandiose en n'ayant aucun désir, en aucune chose matérielle sur la terre. » Je pensais que c'était ça, le renoncement. En réalité, j'étais en train de dire, si je pouvais seulement souffrir assez, si je pouvais juste contrôler ma chair, je pourrais servir le Seigneur dans une véritable puissance. Mais peu de temps après, mon héros a commencé à enseigner de fausses doctrines. Et il a détruit beaucoup de vies à cause de cela. C'est alors que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas la clé principale de la victoire. La victoire n'est pas tienne, elle est mienne. Tant que tu fais les efforts, tu n'avanceras pas. Bien-aimé, c'est à ce point très fort que Jésus vient à nous et dit, « Maintenant prends ma main et suis-moi. Dans ma mort, dans mon enterrement, ma résurrection, observe la croix, serre-la et accroche-toi à ma victoire. C'est là l'endroit où votre crucifixion à la chair a pris place. Tu as déjà été crucifié sur la croix par la foi. Tu as déjà été crucifié sur la croix par la foi. Oui, la mort de Jésus-Christ est un acte de foi. Nous devons nous considérer nous-mêmes comme morts au péché et vivant en Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Paul dit qu'il veut connaître Christ dans la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances, il est en train de parler de la résurrection et la résurrection de Christ, pas de la sienne ou de celle de quelqu'un d'autre. À la croix, Jésus a détruit la puissance déterminante du péché. Maintenant, comment obtenir la victoire et la puissance de Jésus dans notre propre vie? Comment nous approprier sa résurrection et sa vie nouvelle? Tout d'abord, laissez-moi vous demander, comment savez-vous que nous sommes sauvés? C'est seulement par la foi, bien sûr. La parole de Dieu déclare que nous devons nous considérer nous-mêmes comme vivants envers Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. La connaissance de notre salut vient de notre foi seule en la parole de Dieu. De même, nous devons prendre la croix, nous saisir d'elle et recevoir la victoire par la foi dans la puissance du sang de Jésus qui a coulé et qui nous donne la victoire. Nous devons admettre, Dieu, je n'ai aucune puissance. Dieu, je n'ai pas de capacité à me délivrer moi-même. Dieu, je ne peux pas me crucifier moi-même ou avoir un quelconque pouvoir sur le péché. J'abandonne tous mes efforts propres pour mourir au péché. Par la foi, nous sommes en Christ. Et maintenant, nous devons jouir des bénéfices de tout ce qu'il a accompli. Vous voyez, dès l'instant même où nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ. Et cela signifie que nous entrons dans tout ce qui est arrivé à Christ. Ce qui inclut ses victoires aussi bien que sa crucifixion. Ainsi, si nous sommes d'accord avec la parole de Dieu que nos péchés sont excessivement mauvais, nous pouvons aussi être d'accord avec les bonnes choses que la croix nous offre aussi. Elles sont à nous parce que Jésus les a toutes accomplies pour nous. Par exemple, la parole de Dieu dit qu'une fois que nous avons embrassé la croix, nous sommes crucifiés avec lui en nouveauté de vie. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous pouvons tout faire à travers la force de Christ. Nous sommes rendus libres. Nous pouvons céder nos corps au service du Seigneur et offrir nos membres comme des instruments de justice. Croyons-le. Parfois, nous pouvons trébucher à travers tout ce chemin, à cause de l'incrédulité. Mais vous pouvez vous en remettre à la vérité pour que l'ultime victoire soit à vous. Parce que vous pleurez, « Seigneur, je vais te faire confiance jusqu'à ce que la victoire vienne. » Je remercie Dieu pour la croix de Christ. Et je remercie Dieu pour cette crise. Je sais par expérience que la plus grande grâce que j'ai dû prêcher au monde est la prédication de la croix. Et ainsi je vous demande, avez-vous eu votre crise de la croix? Qu'en est-il au sujet de votre condition de péché actuelle? Qu'en est-il de cette forteresse dont vous attendez d'être délivré? Il y a de la délivrance pour vous aujourd'hui. Mais elle ne viendra pas à moins que tu ne t'agenouilles devant Jésus et que tu n'expérimentes ta crise pour sa croix. C'est seulement à la croix que s'achève le péché. C'est à ce moment que vous devez être d'accord avec sa parole. Je ne peux plus continuer dans mon péché, pas une heure de plus. Oh Dieu, j'en suis fatigué, je te l'emmène maintenant. Cher saint, un jour, parce que tu as entendu et reçu le message de la croix, nous nous verrons au jour de la résurrection. Et nous nous réjouirons ensemble. Nous nous embrasserons et dirons, merci Dieu pour la croix. Merci Dieu de ce que nous avons été confrontés à nos péchés et de ce que tu nous as dit que nous ne pourrions pas nous en débarrasser. Jésus nous a aimés assez pour nous emmener dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et pour nous amener à une vie nouvelle pour toute l'éternité. Alléluia. Pour finir, je remercie Dieu pour tous les ministres de Christ qui continuent à proclamer franchement l'évangile de la croix. Ils sont un rempart contre l'idolâtrie du péché dans ces derniers temps. Amen. Je vous avoue que je vous le dis, c'est très gênant de lire de tels textes que je lis devant moi tous les jours. Mais je me dois de le lire. Que ça me coûte, que ça me coûte.